France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Sam Bakias, et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. C'est le dernier volet de notre série sur le souverainisme minier et les politiques des États ou territoires autonomes pour protéger leurs ressources des entreprises étrangères. Après le Groenland, le Mali, le Mexique, aujourd'hui l'Indonésie, où les mines sont aujourd'hui un filon pour l'industrialisation.
À l'époque de la colonisation néerlandaise, nous étions victimes de travail forcé, notamment dans les plantations. Aujourd'hui, nous croyons avoir pris notre indépendance, mais en vérité, nous sommes toujours victimes d'exportations forcées. Nous sommes forcés d'exporter nos ressources naturelles. C'est un fait, mais cela va changer.
Notre système d'interdiction des exportations va attirer les investisseurs chez nous. Nous avons assez de nickel et de bauxite pour que nous développions sur place notre propre industrie de batteries et de véhicules électriques. Et tant pis si on doit nous traîner devant les tribunaux de l'OMC.
Dans les prochaines années, nous voulons rester en Indonésie et construire une grande usine de batteries électriques sur place. Nous espérons même pouvoir construire des voitures électriques complètes sur le sol indonésien très prochainement.
Construire des usines partout en Indonésie, s'habituer au bruit, aux éclairs, aux monstrueux étirements du temps, à la dureté du travail indéfiniment répété, l'autoritarisme des chefs et la sécheresse des ordres, comme l'écrivait Robert Linhart dans L'Établi. En multipliant de telles usines, de batteries ou de voitures, mais aussi des raffineries, des fonderies qui transformeront les minerais extraits sur place, le gouvernement indonésien en est convaincu. Le pays sera bientôt le cœur industriel du monde. Depuis le 1er janvier dernier, le pays interdit même l'exportation de cuivre brut. Il en a été de même il y a quelques années pour le nickel ou encore la bauxite, principal minerai d'aluminium. Les entreprises qui les exploitent sont désormais tenues de les transformer sur place pour leur donner de la valeur ajoutée et y gagner à l'export. Et quand ce sont des entreprises étrangères, elles sont aussi obligées désormais d'ouvrir leur capital à des acteurs locaux. Ces mesures répondent à une même ambition, reprendre la main sur les richesse du pays et devenir un pays enfin prospère. Voilà pour le discours, séduisant mais qui ne dit rien des accidents mortels, des paysages dévastés, des expropriations des populations locales. Certains vont jusqu'à parler d'un souverainisme de façade qui ne serait en fait qu'une collaboration plus encadrée entre l'État indonésien et les multinationales pour un extractivisme débridé. Bonjour Thibaut Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes chercheur au Centre Énergie de l'IFRI. Bonjour Jacob Nierenberg.
Bonjour.
Merci à vous d'être en liaison depuis ICI Provence, anciennement France Bleu Provence. Vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'université Aix-Marseille et vous êtes membre de l'Institut de recherche asiatique. Et comme vous avez, Jacob Nierenberg, parmi vos terrains de recherche, la mine d'or de Grasberg en Papouasie, donc en Indonésie. J'aurais aimé commencer par là avec vous avant d'évoquer les autres ressources de l'Indonésie, en particulier le nickel. À quoi ça ressemble une mine d'or dans une montagne? Ou une montagne transformée en mine d'or, c'est selon?
Eh bien, c'est immense, c'est massif. Et en fait, c'est l'or et cuivre. C'est parmi les plus grandes mines pour les deux, l'or et le cuivre. Et le cuivre qui est très important pour les produits industriels, très en demande. Et cette mine, elle seule, lorsqu'il y avait une grève en 2017, ça a affecté les cours du cuivre parce qu'elle est à ce point grande et on peut l'avoir de l'espace. Et évidemment, c'est quelque chose de très polluant, les résidus qui affectent les moyens de subsistance locaux. Et c'est quelque chose qui est au cœur des contestations politiques en Papouasie-Occidentale, un mouvement indépendantiste qui, depuis très longtemps, se plaint de cette activité qui ramène peu de bénéfices aux locaux. Et je tiens quand même à souligner, mes recherches sont avec une communauté un peu plus loin, à quelques centaines de kilomètres, mais où la pollution de la mine n'affecte pas les villages où je travaille, la ville où je travaille, mais les finances l'affectent, parce que les décaissements qui ont été accordés aux Papous autochtones pour essayer de pacifier leur aspiration indépendantiste, eh bien, elles circulent partout en Papouasie. L'argent de Freeport via des mécanismes d'autonomie sont très importants dans l'économie locale.
Freeport, c'est la société états-unienne qui est un peu moins états-unienne qu'avant, mais on va avoir l'occasion de dérouler tout ça. En tout cas, cette mine d'or et de cuivre de Grasberg, elle est à 4000 mètres d'altitude. Je crois que c'est la plus haute mine ouverte dans le monde. Vous dites qu'on la voit de l'espace. On voit cette montagne qui a d'abord été étêtée, puis éventrée pour être transformée en mine à ciel ouvert avec un cratère de 2 km de diamètre. On estimait les réserves de Grasberg à l'équivalent de 45 milliards d'euros en 1995. On continue aujourd'hui, Jacob Nierenberg, à en extraire des quantités astronomiques tous les jours, 30 ans plus tard.
Oui, c'est continu. En même temps, on envisage une fin, mais une continuation sous-sol. La mine va plutôt, la compagnie se penche sur le sous-sol. On appelle la nouvelle mine en 2028, ça s'appellera le chat sauvage, Kuching Liar. Alors, il y a des ressources minières en abondance. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des investissements très majeurs en infrastructures qui ont été engagés depuis très longtemps, depuis les années 60. C'était la toute première, le tout premier investissement étranger sous le régime de Suharto après son renversement du gouvernement précédent. Alors, pour faciliter le capital étranger, Freeport était vraiment le début de cette ère. Et voilà.
Alors là-dessus, on peut y passer un tout petit peu plus de temps, Jacob Nierenberg, parce que cette mine de Grasberg et son histoire peuvent nous aider à comprendre pour partie la politique menée par le président indonésien actuel, dans le même esprit d'ailleurs que son prédécesseur, cette reprise en main des ressources. Grasberg a été mise en service après qu'une autre montagne, également en Nouvelle-Guinée, eût été totalement arasée et vidée. C'est celle d'Erzberg, exploitée par la même compagnie minière états-unienne, Freeport. Quand et comment cette compagnie s'est-elle installée dans le paysage indonésien? Ça remonte même avant l'ouverture de cette mine, les allers-retours entre des officiels états-uniens. Il y a Alan Dulles dans l'histoire, qui était un directeur de la CIA. Il y a Henry Kissinger aussi, qui siégeait au conseil d'administration. Et des appétits états-uniens très vite aiguisés par l'or que recelaient les sous-sols en Indonésie.
Oui, exactement. Vous êtes bien informé là-dessus. Et c'est assez commun que les gens en Papouasie peuvent réciter une partie de cette histoire du fait que les ressources en cuivre et en or de la Papouasie ont fait partie de manigances de jeux géopolitiques à très haute échelle. Avec les Américains qui prenaient un peu la position hégémonique dans le monde à un certain moment dans les années 60 qui imposaient leur rôle en Indonésie avec le renversement de Sukarno et toutes les tueries anticommunistes qui se sont passées, et pas seulement anticommunistes.
Par
un moment très violent.
À partir de 65, quand le général Suharto, soutenu par les États-Unis, qui sera un allié sanguinaire des États-Unis pendant la guerre froide, renverse le père de l'indépendance indonésienne, Sukarno. Et c'est le général Suharto qui signe en 67 ce contrat avec Freeport qui lui permet d'exploiter le gisement d'Erzberg. Alors ces deux mines d'or, Erzberg et Grasberg, qui contribueront à la déforestation de la Nouvelle-Guinée, île de 800 000 km², il faut se représenter cette immense île, c'est presque aussi grand que le Groenland, à la fois miraculeuse et maudite, déplacée de milliers de Papous aussi qui vivaient autour de ces montagnes qui ont été déplacés dans les villes expropriées par cette compagnie minière Freeport à laquelle le gouvernement indonésien en 2017, et là on fait vraiment un saut dans le temps, Thibaut Michel, a imposé de nouvelles règles. Que s'est-il passé en 2017 avec Freeport et avec toutes les sociétés étrangères qui étaient installées en Indonésie?
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait à partir des années 2000, donc on avait eu précédemment cette ouverture aux capitaux étrangers sous Suharto, et à partir des années 2000, on a vraiment la volonté de la part de l'État indonésien de mieux contrôler ses ressources, ce qui passe par une loi minière qui est mise en place en 2009. Et c'est tout le process, en fait, de mise en place de cette loi, de mise en application, qui se produit jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment, à partir du début des années 2010, deux obligations progressives pour l'État indonésien, enfin, ou pour des parties indonésiennes plutôt, de devenir actionnaire à hauteur de 20% des sociétés locales, donc comme c'est le cas de Freeport Indonesia qui a été développé pour exploiter ces mines-là. Donc à partir d'acquérir un capital de 20% à partir de 5 ans d'opération, et ensuite on a cette mesure qui est renforcée, d'acquérir un capital de plus de 50% à partir de 10 années d'opération.
Donc là il a fallu convaincre Freeport, pour rester d'abord un instant sur cette mesure-là, il a fallu convaincre Freeport, entre autres, de céder 50% de son capital ?
Tout à fait, enfin, on parle de la société locale, donc de la société établie en Indonésie, ce qui évidemment a pu causer un bras de fer avec Freeport à l'époque pour arriver à ce que l'État indonésien prenne cette participation, ce qui a été matérialisé en 2017 en échange d'une extension des permis d'exploitation de Freeport, ce qui a permis donc de prévoir une continuité d'activité sur un plus grand nombre d'années. Mais en échange de cette prise de participation de partie indonésienne dans l'entreprise et également en échange d'investissements dans des fonderies établies en Indonésie, dans des fonderies pour le cuivre.
Donc pour la transformation de ce qui est extrait.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que cette mesure-là en particulier, celle de contraindre les sociétés minières étrangères opérant en Indonésie d'ouvrir leur capital à une participation indonésienne et pas nécessairement publique d'ailleurs, ce sont aussi des entreprises privées indonésiennes, est-ce que cette mesure s'adressait en particulier aux entreprises états-uniennes, canadiennes ou australiennes ? Je ne sais pas si elles sont présentes en Indonésie, mais depuis le début de cette série, ce sont elles tout le temps qu'on entend vraiment qui sont investies dans ces mines-là, ou aussi aux entreprises chinoises, Thibaut Michel ?
Alors la mesure est générale, elle n'est pas destinée spécialement
à l'une
aux entreprises américaines. Effectivement, celle qu'on entend le plus, c'est plutôt les entreprises occidentales. Mais on a aussi on a des entreprises, vous le disiez, australiennes. On a Avalé, le brésilien, qui est présent aussi. Voilà, on a un certain spectre d'entreprises. Mais effectivement, là où ça s'est le plus fait sentir, c'est notamment avec Freeport pour cette question du cuivre, qui a été d'ailleurs réactivé il y a peu avec des déclarations du président Jokowi dans le cadre de sa fin de mandat, qui expliquait en fin 2024 que Freeport appartenait à l'État indonésien, enfin à l'Indonésie, et n'était pas une compagnie américaine, c'était une compagnie indonésienne, puisque l'État en était actionnaire à 51% et qui prévoyait de pousser cet actionnariat à 61%.
Donc Joko Widodo est à l'origine de ces mesures les plus récentes, même s'il n'est plus aujourd'hui président. C'est son successeur qui lui est quand même assez proche aujourd'hui, qui a repris en main toutes ces mesures-là. Joko Widodo, pardon, qui défendait son modèle il y a quelques temps, quand il martelait à ses électeurs que l'Indonésie possède d'immenses ressources et qu'il n'est plus acceptable qu'elles soient exploitées par d'autres.
Écosystème besar.
Nous avons les premières réserves de nickel au monde, les deuxièmes plus grandes pour l'étain. Pour la bauxite, nous sommes sixième et septième pour le cuivre. Nous avons en abondance tous les matériaux nécessaires à la fabrication des batteries de voitures électriques. Nous pouvons devenir des leaders de cette industrie grâce à l'interdiction des exportations.
L'interdiction des exportations de minerais bruts. Thibaut Michel, quels minerais en l'occurrence ? De tous les minerais dont regorgent les sous-sols indonésiens, est-ce que tous sont concernés par cette installation des mesures d'interdiction d'exportation qui en fait se sont mises en place assez progressivement, pas tout de suite ?
Tout à fait, oui. Alors tous les métaux ne sont pas concernés. On a eu une mise en place progressive à partir de 2014 sur le nickel qui a plus ou moins bien fonctionné, avec des résistances notamment de compagnies étrangères.
Et qui chinoises notamment elles sont très présentes.
Voilà, non, tout à fait, mais de manière assez générale, mais aussi surtout, donc cette interdiction a été un peu relâchée avant d'être pleinement mise en œuvre le 1er janvier 2020, donc avec une interdiction totale d'exportation de minerais bruts de nickel. Et ensuite, vous le disiez au début, ça a été étendu à la bauxite en juin 2023 et au cuivre en début d'année. Donc il y a vraiment cette idée d'interdire ces exportations-là pour développer la transformation sur place, ce qui est un objectif assez commun pour les pays qui possèdent des ressources, à savoir parvenir, non pas se limiter seulement au processus extractif, mais aussi aller sur les activités de transformation à plus forte valeur ajoutée. Et on a également quelques déclarations, ça reste très hypothétique, mais de possibilités sur l'étain également, dont on parlait dans l'extrait que vous mentionniez, qui est une force indonésienne aussi.
Alors l'Indonésie qui veut sortir de son statut de simple puissance extractive, industrialiser le pays, exporter des biens à forte valeur ajoutée. Jacob Nierenberg, est-ce qu'on peut en parler comme d'un parti pris de conviction ou aussi guidé par des considérations plus opportunistes? Est-ce que les convictions sur les minerais sont par exemple aussi fluctuantes que leur cours sur les marchés?
Je pense que c'est les deux, forcément. Je pense qu'il faut mettre ces développements dans leur contexte historique. Évidemment, une longue série d'efforts pour industrialiser l'Indonésie de façon qui serait résistante justement aux fluctuations des cours internationaux. Et en général, je pense que les fluctuations des matières premières peuvent être plus violentes. Et également, comparé à des produits industriels, mais aussi le modèle d'industrialisation qui a rencontré un choc très violent à la fin des années 1990 en Indonésie, était largement basé sur l'importation de pièces qui étaient ensuite assemblées et exportées. Alors, les fluctuations des cours de devises étrangères sont devenues extrêmement problématique. Alors, il y a une fuite des capitaux quand la roupie a chuté. Alors, ce modèle qui n'était pas à l'origine le modèle désiré, même au début, dans les premières années du régime Suharto, on visait un modèle plus intégré, mais ce modèle était très vulnérable. Alors, je pense qu'il y a quand même une volonté réelle pour stabiliser l'ordre politique autour d'une industrialisation qui serait plus résistante en termes financiers.
Mais même si on dit que l'âge d'or du nickel est déjà terminé, par exemple, parce que la nouvelle génération de batteries est faite de lithium ou de lithium fer phosphate, en tout cas l'Indonésie est l'une des plus grandes réserves au monde de nickel et compte quand même se trouver dans cette course mondiale à la transition verte et aux batteries de voitures électriques. Est-ce que depuis 2009, Thibaut Michel, l'Indonésie a réussi à mettre en place les usines nécessaires à la transformation des minerais? Est-ce qu'elle a développé des outils de raffinage, ouvert toutes ces usines de transformation ou de fonderie?
Alors, je reprenais juste sur les batteries. Donc, effectivement, on a l'émergence d'autres chimies de batteries, mais les batteries au nickel restent quand même avec un potentiel d'avenir et une cohabitation probable entre le LFP et le NMC, comme vous le disiez.
LFP, c'est lithium fer phosphate.
Voilà, tout à fait. Après, pour ce qui est du développement des usines, le projet... On a déjà eu un vrai mouvement de développement d'infrastructures à partir, notamment via des investissements chinois à partir de 2013, qui est vraiment une des politiques de Jokowi qui a été remarquée, qui était vraiment une de ses volontés fortes de développer les infrastructures, notamment ferroviaires, mais aussi tout ce qui peut exister dans le domaine de l'hydroélectricité. Le projet de Nouvelle Capitale aussi, par exemple, qui a fait beaucoup parler et qui continue de faire parler. Mmh. Après, pour ce qui est des usines dans le cadre de la transition verte, pour les usines de type batterie ou véhicule électrique, on est encore plutôt sur des projets et des annonces qui sont faites de compagnies étrangères ou de programmes par le gouvernement pour développer cette logique-là. Pour ce qui est des usines de transformation des minerais, on a quand même depuis quelques années un processus qui s'est largement accéléré. Aujourd'hui, on a un certain nombre de fonderies de nickel en Indonésie. Et surtout, on avait des fonderies qui servaient principalement à l'origine à faire de l'acier inoxydable, qui est la principale utilisation du nickel.
Pour les bijoux, notamment.
Voilà, pour
pour les bijoux fantasy.
Un certain nombre de choses. Et en fait, l'ambition indonésienne, c'était de développer des smelts, des fonderies qui étaient un peu plus, avec une technologie qui permettait d'obtenir un nickel qui sert pour les batteries. Et ça, c'est quelque chose avec des procédés hydrométallurgiques. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup à partir de fin 2021-2022. Et donc, on voit aussi les effets de cette interdiction d'exportation. Et l'idée, c'est évidemment d'appliquer cette interdiction à d'autres matières premières, comme la bauxite et le cuivre, pour aboutir au même procédé. Seulement pour le nickel, on a du recul en voyant qu'un certain nombre de fonderies ont été ouvertes. Pour les autres, on a moins de recul et il est moins évident de savoir si ça va vraiment fonctionner ou non.
Et des chaînes de montage de batteries électriques, il y en a ?
On a des projets, en termes d'usines, je ne saurais pas vous dire exactement s'il y en a ou s'il n'y en a pas du tout, mais il y en a peu. En tout cas, voilà, l'idée, c'est cette ambition-là, c'est ce que martelait Jokowi dans un de ses discours, où il dit qu'il ne faut pas s'arrêter aux batteries, il faut aller sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, l'activité manufacturière de batteries, elle reste très limitée, dans le pays. Ouais.
Alors, Jacob Nierenberg, est-ce que parce que des entreprises indonésiennes sont désormais au capital de toutes les exploitations minières, des filiales des multinationales qui extraient les ressources sur place, est-ce que pour autant, ces exploitations sont devenues plus vertueuses et la question sous-jacente, c'est est-ce que ça fait partie du discours aujourd'hui des autorités indonésiennes que de dire on va reprendre la main sur nos ressources, d'abord parce que on a le droit, nous aussi, de nous développer, d'avoir des exportations à plus forte valeur ajoutée et de vraiment profiter de ce sur quoi on n'a jamais vraiment eu la main jusqu'à présent, ou est-ce qu'il y a aussi le discours de dire on va protéger nos ressources ?
C'est une question intéressante. La question de vertu est difficile à répondre, mais je crois que c'est surtout la première réponse, que c'est une volonté de mettre en valeur ces ressources d'une façon qui serait, selon le discours, qui profiterait plus aux populations locales. Et je pense qu'il y a une certaine vérité dans l'analyse des chaînes globales de valeur, à dire que, le plus on monte dans ces chaînes, alors plus la valeur augmente. Alors, pour le pays, ce serait favorable de rapatrier une certaine partie de ces activités-là. Et je pense que, comme M. Michel évoquait, la question de l'acier inoxydable est très importante dans tout ça. L'Indonésie qui devient soudainement une puissance d'acier inox, et l'Union européenne s'en plaint et lance une procédure à l'OMC. Oui. C'est vraiment une question d'actualité assez intense en ce moment. Et tout ça,
même ça fait depuis 2019 que cette plainte est en instruction. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur la Commission européenne. Ça fait longtemps qu'elle estime que ce protectionnisme minier enfreint les règles du commerce international. Elle a rétorqué en décrétant des embargos sur le cacao indonésien, le café, le bois, l'huile de palme, tout ce qui contribue par ailleurs à la déforestation. C'est au nom de cette question-là que la Commission a pu mettre en vigueur ces réserves-là. Alors, on a du mal à se représenter, Jacob Nierenberg, l'immensité de l'Indonésie qui, d'ouest en est, est aussi vaste que la distance entre Paris et Téhéran. M'a dit Thibaut Michel avant qu'on commence cette émission, 5000 km d'est en ouest, est-ce que toutes les îles qui composent l'archipel sont concernées de la même façon ?
Non, pas du tout. Et en fait, cette inégalité ou cette asymétrie interne en termes de développement et d'environnement au pays, c'est quelque chose de très longue date. C'est une dynamique qui est constamment commentée. Même l'État colonial parlait des îles intérieures et extérieures qui avaient un caractère très différent. Les îles extérieures étaient justement des endroits pour l'extraction de ressources naturelles. Mais en fait, il faut se souvenir que le modèle extractif, agro-business, en fait, avait ses débuts sur Java, dans les îles densément peuplées. Mais finalement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de plantation de palmistes ou d'ouverture de nouvelles mines, effectivement, c'est à Bornéo, c'est à Sulawesi, c'est dans les îles Moluques ou c'est en Papouasie. Et la Papouasie est un peu la dernière frontière de cette intensification. En même temps, les infrastructures qui seraient nécessaires pour vraiment lancer ça sont très coûteuses à installer. Alors, c'est pas un procédé égal dans tous les sens, mais en Papouasie, la situation est particulière.
Sur l'île de Bornéo que vous venez de citer, des habitants se plaignent régulièrement de ce que les entreprises qui viennent pour extraire les différents minerais sur place, leur empêchent par exemple d'avoir un accès à l'eau quotidien.
L'entreprise se moque des ressources en eau du village. Nous devons boire l'eau d'une autre rivière. parce que la plus proche est traversée par la route. Nous avons demandé à l'entreprise de nous fournir de l'eau propre, mais elle ne l'a toujours pas fait.
Alors l'idée de prendre soin de son pays, ça pourrait et ça devrait faire partie de cette politique de souveraineté. On entend que les présidents Widodo et aujourd'hui Subianto, son successeur, ont moins de choses à dire sur ce sujet-là. Néanmoins, ils envoient régulièrement des inspecteurs, ils font des audits, ils essayent de montrer qu'ils se préoccupent de cette question-là. Mais le voudrait-il, Thibaut Michel, est-ce que le gouvernement aurait les moyens de contrôler la production sur l'ensemble de l'Indonésie, qui est un État à la fois très vaste mais aussi décentralisé?
Alors il y a sans doute toujours moyen de faire mieux avec de la volonté politique, mais effectivement, un des problèmes qu'on retrouve, c'est déjà l'éparpillement de cette activité entre, vous l'avez dit, une géographie extrêmement vaste et très variée, entre un certain nombre de compagnies, il y en a pléthore, et donc c'est difficile de se retrouver dans cette jungle un peu de toutes ces compagnies qui peuvent exister, et sous toutes ces formes. On a aussi évidemment un problème, comme dans beaucoup de pays de manière générale, de corruption qui peut exister. À quel point les décisions qui sont prises à Jakarta, peut-être à Nusantara dans l'avenir, mais pourront être appliquées de manière concrète. À quel point est-ce que les entreprises peuvent aussi s'accorder avec les gouvernements locaux sur certains points. Et à quel point est-ce qu'elles sont en mesure de contourner ces mesures-là? On savait par exemple que, selon un rapport qui avait été fait par Le Monde, des entreprises chinoises contournaient les taxes sur les travailleurs chinois qui devaient être payés aux gouvernements locaux en les mettant par exemple dans la forêt au moment des inspections pour que ces travailleurs soient moins visibles, pour respecter les quotas qui étaient fixés.
Donc difficile de contrôler un territoire aussi vaste, notamment d'ailleurs l'État est très décentralisé depuis que le FMI et la Banque mondiale sont venus en aide à l'Indonésie à la fin des années 90, contre la promesse de réforme et notamment une décentralisation qui laisse les coudées plus franches aux autorités locales. L'État central n'a pas les moyens d'imposer une régulation sur l'ensemble de territoire. Est-ce qu'il compense, Jacob Nierenberg, et y compris sur cette mine de Grasberg que vous connaissez bien, en militarisant les sites? Est-ce que l'armée est souvent présente près de ces sites d'extraction?
Oui, c'est une vieille histoire encore, la militarisation du site Grasberg. Il y a plusieurs incidents et c'est motivé sur la base des attaques, parce qu'il y a quand même un mouvement, une branche armée du mouvement indépendantiste qui a lancé certaines opérations, mais bon, c'est pas une branche qui est très bien armée, mais ça justifie ce déploiement. Si on compare aux économies minières ailleurs dans le monde, je crois que c'est assez habituel de voir une espèce de militarisation également, tout simplement pour empêcher les activités qu'on appellerait illégales de minières à côté, qui viendraient un peu voler une partie de la ressource. Mais pour parler de cette décentralisation, c'est quand même un élément contradictoire, parce que justement, dans la périphérie de l'État, où il y a un mouvement d'indépendance, et là, on trouve une force armée beaucoup plus importante qu'ailleurs dans le pays, pour défendre la souveraineté, l'intégrité nationale. Et en même temps, il faut souligner que cette décentralisation, comme vous avez dit, un peu plus ou moins imposée par le FMI et par la Banque mondiale, elle a reculé en partie via certaines des changements des politiques dont nous parlons aujourd'hui. Je pense que nous sommes un peu dans le milieu de ce processus, et finalement les permis pour les mines passent par le centre. Alors il devrait y avoir quand même une capacité à imposer des contrôles, et c'est ce que demandent des groupes, des organisations environnementales et de défense des droits des travailleurs à Sulawesi et ailleurs, qui vont avoir quand même un discours nuancé, qui va reconnaître que ce projet d'ajout de valeur amène des bénéfices à la nation en général, mais que voilà, il y a des problèmes très graves en termes de tenir ces engagements des compagnies qui existent sur papier, mais pas toujours en pratique.
Et notamment, vous le rappeliez aussi, sur le droit du travail, il y a des syndicats en Indonésie et quelques mouvements sociaux, puisque vous nous rappeliez qu'il y avait eu en 2011 une grève massive dans cette mine de, je crois que c'est 2011, de Grasberg, mais qui avait perturbé les cours mondiaux du cuivre, des manifestations aussi en 2006-2017 pour fermer cette mine. Donc, des discours qu'on entend sur la qualité des conditions de travail dans ces mines. Cet employé anonyme, par exemple, de l'entreprise PT Gunbuster Nickel Industry répond à la chaîne Bloomberg.
J'ai très peur des accidents du travail. J'ai très peur d'en avoir un moi-même. Si j'étais blessé ou handicapé, ça risquerait de détruire ma vie et celle de toute ma famille. Un de mes amis a eu un accident à la mine. Il a eu l'œil crevé par des éclats de métaux. Aujourd'hui, il est blessé à vie.
Je travaille toujours là-bas malgré ma blessure. C'est difficile de trouver un autre boulot. Que je le veuille ou non, je dois continuer à travailler pour nourrir ma famille.
Deux témoignages recueillis par Bloomberg. On entend bien aussi, enfin, vous avez rappelé, Jacob Nierenberg, que cette question des conditions de travail, elle est quand même assez ambivalente. Cette politique de valeur ajoutée a permis néanmoins de fermer certaines mines plus illégales, des cartels de nickel par exemple, qui sont rentrés dans le rang où les conditions de travail étaient abominables et elles le sont peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais il y a de gros accidents, l'explosion d'un des fours d'une fonderie de la zone industrielle de Morowali en décembre 2023, 21 morts, 38 blessés, des affrontements récurrents entre travailleurs indonésiens et chinois aussi, et qui peuvent parfois faire des morts. Sauf qu'on dit, Thibaut Michel, que l'État et les compagnies sont très sensibles à l'acceptabilité de ces projets. C'est un terme qu'on retrouve dans les documents de ces entreprises, un jargon qu'on entend ici et là. Alors, comment faire en Indonésie? Comment est-ce qu'on travaille à l'acceptabilité de ces projets?
Alors, c'est une vaste question. Je ne sais pas exactement... C'est ce qui est affiché. Après, il y a quand même un agenda qui vise à développer rapidement des usines de manière très vite. Il y a aussi le fait, sur les aspects, par exemple, déforestation, le fait que le nickel en Indonésie se présente sous forme de roches qu'on appelle des latérites. Et en l'occurrence, ces roches sont plutôt des roches de surface. C'est-à-dire que vous pouvez pas miner cette roche de manière souterraine et avec des impacts visibles beaucoup plus faibles. Donc il y a aussi cette problématique-là. La problématique aussi du fait qu'une grosse partie de ces usines avec un réseau électrique sur avec un réseau électrique sur place qui est peu présent, fonctionne à partir de centrales à charbon qui sont déployées directement sur place et de déchets où vous avez des déchets miniers qui pendant un certain nombre d'années, même si c'est interdit maintenant formellement depuis 2021, étaient tout simplement rejetés dans la mer. Vous parliez de Morowali, c'est un très bon exemple. On avait vraiment la couleur de l'eau autour du bassin minier qui avait totalement changé, du bleu au très sombre. Voilà, il y a quand même une volonté d'aller vite qui est difficile avec une forme d'acceptabilité. Après, ça suppose aussi de savoir ce qu'on entend par acceptabilité. Vous avez aussi pour les populations, même s'il y a, vous l'avez dit, des conditions de travail très difficiles, tout un certain nombre de choses qui impactent la vie de ces populations. Elle voit aussi que ces bassins miniers, à l'inverse, ont permis d'amener des infrastructures de transport, d'amener l'électricité sur place, d'amener un certain nombre de choses qui concourent aussi, on va pas dire à acheter leur acceptabilité, mais évidemment, ça met des choses dans la balance qui permettent de nuancer ce problème-là et d'avoir un peu plus de soutien local quand il est nécessaire, les oppositions existent.
Voilà, les oppositions existent, donc des populations ou des communautés parfois qui se déchirent entre elles ou entre eux. Autour de la montagne de Grasberg, par exemple, cette mine d'or et de cuivre que vous connaissez bien, Jacob Nierenberg, et où les cours d'eau, fleuves et rivières sont aujourd'hui chargés d'acide, de cyanure, d'arsenic et autres résidus toxiques générés par le travail de la mine. Comment les populations locales aujourd'hui se partagent entre ceux qui voient surtout les inconvénients et ceux qui préfèrent tirer parti des avantages?
Ben, c'est comme vous dites, il y a ce partage, il y a ce débat au sein du mouvement indépendantiste et au sein de la société plus largement. Est-ce que nous voulons approfondir ce modèle extractif, mais y ajouter de la valeur, ou est-ce que nous voulons nous retirer de ce modèle et vraiment primer sur les moyens de subsistance traditionnels en équilibre plus harmonieux avec la nature, avec la terre et entre les êtres humains? Ce sont des débats d'actualité qui se passent. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il y a, à travers ces débats, en parallèle, une large déception lorsque le président Jokowi a annoncé que la nouvelle fonderie, la deuxième fonderie de Freeport, qui transforme ce cuivre papou et l'or papou, allait être construite non pas sur place en Papouasie, mais encore une fois dans une banlieue industrielle sur Java Est, à Gressik. Ça, c'est quelque chose qui a provoqué une déception et une espèce de commentaire, une critique de voir que finalement, ça semble confirmer que le pouvoir, les puissances externes ne souhaitent que profiter de nos ressources et pas vraiment développer nos capacités humaines. Mais alors, il y a eu des raisons offertes par le président qui sont quand même plutôt convaincantes, parce que c'est quand même, ça doit coûter un peu moins cher d'installer une fonderie dans un lieu qui est déjà une espèce d'écosystème industriel. Alors, ça se comprend. Mais en même temps, c'est quelque chose que le gouvernement est conscient, et l'an passé s'est engagé à ce que la prochaine fonderie, ben, elle sera construite sur place en Papouasie. Alors, nous avons cette contradiction intéressante où les gens, il y a eu des mobilisations intenses au fil des années pour demander la fermeture de la mine, et en même temps un espoir assez largement partagé que, au moins, si on va avoir cette mine, que sa valeur soit ajoutée plutôt localement pour générer plus d'emplois, plus de circulation de cette valeur.
En attendant, vous le disiez, les usines de transformation sont plutôt sur les îles de Java ou de Sumatra, en tout cas les îles où la population est bien davantage concentrée qu'ailleurs en Indonésie, population qui échappe aux pollutions environnementales générées par l'extraction minière. Est-ce qu'elles en sont pour autant dans l'ignorance, ces populations urbaines, de ce qui se passe plus loin dans leur pays? Il se trouve qu'il y a eu, il y a 3 semaines, dans les grandes villes d'Indonésie, des manifestations massive d'étudiants pour protester contre la politique économique du nouveau président Prabowo Subianto. Réduction budgétaire drastique, 18 milliards d'euros pour financer un programme d'aide alimentaire et un nouveau fonds souverain pour des investissements stratégiques. Est-ce qu'il s'agit de ces investissements dont on parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs ces investissements stratégiques dans la transformation des minerais? Et est-ce que dans les manifestations, vous avez pu, Jacob Nierenberg, vous qui les avez sans doute suivis de loin, voir, entendre une forme de soutien de la population à leurs compatriotes indonésiens qui sont davantage concernés par les pollutions?
Ma compréhension, et je pense que je ne veux pas généraliser, mais mon impression des manifestations, c'est que la critique envers ce programme de fonds souverains vise surtout le fait que ça deviendrait un prétexte pour retirer des fonds, des financements d'autres programmes sociaux que des étudiants et d'autres voudraient défendre. Alors, c'est un peu prendre garde contre ce prétexte, ce qui se comprend. Après, en termes de solidarité étudiante et autres, avec des gens dans les villes vis-à-vis des populations qui sont affectées par les industries extractives, oui, c'est des mouvements de ce genre existent, sont assez vigoureux en Indonésie depuis un certain temps. En fait, déjà vers la fin du régime Suharto, déjà l'environnement était devenu un élément de revendication politique et qui même permettait d'avancer d'autres revendications.
Là, ce qui est peut-être plus nouveau en ce moment, ce qui est peut-être plus nouveau en ce moment dans les manifestations, c'est un discours ou un début de discours de soutien aux Papous. Ça vous a surpris, oui, Jacob Nierenberg?
Ben, encore une fois, je suis ça pendant un certain temps. Alors, c'est le développement d'une forme de solidarité, elle s'est accrue durant les années, en partie parce que la population d'étudiants et d'autres jeunes papous dans les grandes villes indonésiennes à l'extérieur de la Papouasie, elle s'est accrue également. Il y a des fortes populations dans des villes telles que Yogyakarta ou Manado à Sulawesi et d'autres villes. Il y a des opportunités, des échanges politiques qui se font. Il y a tout un ferment assez intéressant qui, lui aussi, a une histoire un peu plus ancienne qu'on peut le penser. Mais voilà, est-ce que cette solidarité politique pour l'indépendance papou, est-ce qu'elle est partagée largement dans le mouvement étudiant? Je pense que non, mais il y existe des formes de conversation qui se déroulent.
Alors que les Papous sont des Mélanésiens chrétiens, c'est intéressant de le rappeler. Les Indonésiens sont un peuple majoritairement malais et musulman, donc c'est toujours très intéressant de voir ces mouvements de solidarité qui se dessinent, même s'ils restent timides. Les Papous ne sont pas les seuls à être concernés par l'extractivisme. Il y a aussi la communauté Ongana Maniawa, concernée par la mine de Weda Bay. On en parle juste après ce groupe de rock alternatif originaire de Yogyakarta en Indonésie. Sheila on 7. J'ai parlé sur sa voix, non, ça va pas du tout. C'est un groupe de rock alternatif, donc originaire d'Indonésie. C'est le tout premier groupe en Indonésie avec ses trois premiers albums qui ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires parmi les albums les plus vendus de tous les temps dans ce pays où se termine notre série sur les souverainismes des sous-sols, ces états qui protègent leurs ressources des appétits étrangers. Jakarta tient un discours souverainiste, met en place des lois contraignant les sociétés minières. Mais dans les faits, l'état indonésien est en réalité souvent un partenaire idéal pour les multinationales.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Cette forêt tropicale, c'est notre maison. C'est là où nous vivons. La compagnie minière de Weda Bay a déjà détruit toute une partie de cette forêt. Ici, c'est tout ce qu'il nous reste. Nous n'abandonnerons pas notre terre. Cette forêt était habitée par nos parents et nos ancêtres. C'est chez nous et nous ne nous laisserons pas expulser d'ici. Arrêtez de nous spolier.
Un membre de la communauté Ongana Maniawa, peuple nomade qui vit reclus et sous la menace d'une mine, comme explique donc ce monsieur à l'ONG Survival International. C'est cette mine de Weda Bay, plus grande exploitation de nickel au monde sur l'île des Moluques du Nord, où les intérêts privés et publics convergent au détriment des populations locales. Bonjour Clara Rousset.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut Agro de Montpellier, autrice d'une thèse sur la mine Weda Bay, plus grande exploitation de nickel au monde. D'ailleurs, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la donner à voir? À quoi est-ce qu'elle ressemble?
Oui, absolument. Alors, la mine Weda Bay Nickel, elle est située donc dans la province des Moluques du Nord, qui était jusqu'aux 20 dernières années encore très préservée du développement industriel. Donc, c'est une île volcanique recouverte d'une forêt tropicale humide, luxuriante, avec bon nombre d'espèces endémiques qui y évoluent. Et donc, visuellement, c'est une jungle intacte, bordée par des eaux turquoises, réputée pour la faune, la flore marine. On est à l'intérieur du triangle de corail. Et donc, quelques villages côtiers métiers qui, jusqu'à l'arrivée de la mine, vivaient selon un mode de vie traditionnel, des produits de la pêche, de la culture, de leur terre vivrière, etc. Donc voilà, je prends juste le temps de planter ce décor parce que ça permet, à mon sens, de prendre la mesure de ce que représente la mine, en réalité, dans cet environnement. Parce que, bah, à l'inverse, le complexe mini Weda Bay, c'est à la place de la jungle, une mine à ciel ouvert. Donc, ça a déjà été discuté un peu précédemment, mais donc, des terres qui ont été intégralement nettoyées, selon les termes des populations locales, sur lesquelles tout a été rasé sur des milliers d'hectares, avec des zones d'excavation plus ou moins profondes, du stockage, des terrils, des routes qui ouvrent la jungle. Et donc, une terre complètement dénudée d'une couleur ocre qui vient trancher avec la profondeur et les nuances de vert de la forêt.
Eh bien, vous nous avez très bien planté ce décor là, Clara Rousset. La société qui exploite aujourd'hui cette mine, elle est détenue à la fois par Eramet, entreprise française, par Tsingan, qui est une entreprise chinoise, et par l'État indonésien. Dans ce cas précis, quel actionnaire est l'État indonésien? Est-ce qu'il permet d'exercer un certain contrôle sur la stratégie de l'entreprise?
Alors non, absolument pas. Aujourd'hui, l'État indonésien et donc la société qui est actionnaire, Antam, n'exerce aucun contrôle sur l'entreprise. Elle a été intéressée, elle a pris une participation, un intéressement financier au projet minier. Donc comme c'est prévu par la loi, le régime minier indonésien, on est sur une participation de 10% qui a été mis en place par le régime minier historique, mis en place par Suharto en 1967. Donc on est vraiment sur un régime particulièrement avantageux pour les investisseurs étrangers, tout à fait pro-extractivistes, et qui ne promeut pas du tout un contrôle de l'État sur les multinationales étrangères, mais bien au contraire un pouvoir très important, hein, laissé aux acteurs économiques étrangers vis-à-vis des ressources naturelles indonésiennes.
Oui, qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est un État qui est assez lâche dans son contrôle, comme on le disait dans la première partie. Et là, c'est intéressant d'avoir un exemple précis sur Weda Bay en particulier, dans ce qui concerne à la fois les normes environnementales, mais aussi les conditions de travail.
Au plan historique, effectivement, le cas Weda Bay, il est particulièrement intéressant parce que le contexte de ses débuts, hein, donc en 1998, c'est un contexte un peu particulier de renversement du gouvernement Suharto, donc qui est l'origine de ce régime minier indonésien. Et donc, ce renversement du président Suharto, il est le produit d'un soulèvement populaire qui a été discuté, qui traverse l'Indonésie et qui porte sur des revendications sociales et environnementales, qui remettent en cause ces 30 années de régime d'accaparation des ressources. Et donc, à ce moment-là, juste après finalement que l'entreprise obtienne le permis minier, il y a une loi forestière qui va apparaître en 99 et qui va interdire l'exploitation des mines à ciel ouvert, en forêt protégée, du fait de l'importance et de la fragilité des écosystèmes concernés. Et donc, cette loi, elle est a priori un coup dur pour l'extractivisme en général, hein, ça remet près de 150 permis miniers en cause, et il se trouve que le projet Weda Bay Nickel, il est touché de plein fouet par cette nouvelle loi, puisque ça concerne 98% de sa concession minière qui se trouve être une forêt protégée. Donc, a priori, on est sur un coup dur, sauf que très rapidement, dès les années 2000, on a un gouvernement indonésien, des industriels, mais aussi des acteurs internationaux tels que la Banque mondiale, qui vont revenir à la charge avec une rationalité économique et financière qui va reprendre le pas. Et donc, en 2004, la présidence indonésienne va utiliser une régulation d'urgence qui a été très dénoncé pour son caractère abusif et antidémocratique, pour autoriser la reprise de plusieurs projets miniers, parmi lesquels Weda Bay Nickel. Donc une mine à ciel ouvert, dans une forêt protégée, qui illustre bien cette collusion finalement entre les intérêts étatiques et industriels aux dépens de la préservation environnementale.
Dans un espace où vit un peuple nomade qui est coupé du monde, les Ongana Manyawa, peut-être un mot d'ailleurs sur eux, ils sont coupés du monde par choix.
Alors oui, effectivement, donc il y a cette population, cette communauté nomade qui vit dans la forêt. Donc effectivement, c'est un choix. On est sur une communauté indigène une des dernières communautés indigènes nomades en Indonésie qui vit en autarcie dans la forêt, donc avec une dépendance très importante à la forêt, autant sur le plan de la subsistance que sur le plan médicinal, que sur le plan spirituel, bien évidemment. Alors, c'est pas les seuls à être concernés. Il y a aussi toute une différentes communautés sédentarisées dans la zone, la communauté Sawai notamment. Mais oui, effectivement, on est sur des communautés qui ont été très fortement impactées par l'implantation de la mine.
Et vous dites dans vos travaux qu'Eramet affirme sur la base de travaux commandés à un anthropologue indépendant, et Eramet, donc cette société française qui prend part à l'exploitation de la mine, que seules 9 personnes des Ongana Maniawa vivent dans le périmètre de la concession minière. Alors certains disent qu'ils ont mené de vraies consultations, les habitants disent qu'il y a eu des expropriations manu militari, des arrestations arbitraires, ça on le sait, et ce même avant le début de l'exploitation, des collectifs qui se sont montés, et vous écrivez dans un article que vous parlez d'une fabrique, d'un besoin de développement. Qu'est-ce que vous voulez dire, Clara Rousset ?
Alors, bah, effectivement, pour justifier de l'importance de son projet minier, l'entreprise minière, donc l'entreprise française Eramet, doit aussi se justifier, notamment vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, de l'acceptabilité sociale de son projet. Et donc, elle va, pour cela, aller réaliser des enquêtes auprès des populations locales. Dans le cadre de ces enquêtes, elle va notamment chercher à collecter tout un tas d'informations sur les habitudes, les modes de vie locaux, mais aussi les structures de pouvoir, etc. Et on voit bien, enfin, on voit à travers les résultats de cette enquête que elle va apposer une lecture tout à fait occidentale et une rationalité économique à des modes de vie traditionnels indigènes, qui jusque-là n'avaient pas du tout cette rationalité économique ou ce prisme monétarisé. Donc, par exemple, on est dans une zone où on ne mourrait pas de faim, bien au contraire. Hein, on est dans une jungle luxuriante, une eau poissonneuse où les enfants de 3 ans savent pêcher avec un matériel rudimentaire. Donc, il y a une abondance assez importante. Donc une qualité de vie qui est très loin des canons occidentaux, bien évidemment, mais qui n'en est pas moins au milieu d'une jungle absolument superbe. Et l'entreprise va venir appliquer un prisme économique. Voilà, par exemple, dire que les populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors effectivement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange monétaire, il n'y a pas de distributeur sur l'île d'Halmahera avant que l'entreprise arrive. Mais pour autant, il n'y a pas de pauvreté non plus. Donc finalement, fabriquer ce prisme de pauvreté avec des rapports, des questions sur l'hygiène, sur les logements, etc., c'est une manière de dire que le développement est un impératif, que la mine est nécessaire, parfois à l'encontre de ce que pensent les populations eux-mêmes.
Et notamment, vous écrivez dans vos travaux que 60% des maisons sont qualifiées par l'entreprise de permanentes et que la part restante se répartit entre logements temporaires et semi-permanents. Ce sont les mots employés dans le rapport parce que ces maisons ont un sol en terre battue et un toit en palmier sagou. Merci beaucoup en tout cas, Clara Rousset. Il y a tant de choses à dire. On met en lien sur le site de Culture Monde vos travaux, notamment des extraits, j'imagine, de votre thèse sur la mine Ouedabé, la plus grande exploitation de nickel au monde. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut Agro de Montpellier. Pour conclure sur peut-être une conclusion un petit peu plus macro, Thibaut Michel, on entend comme l'Indonésie veut mener des rapports de force pour faire en sorte d'être aujourd'hui un pays plus productif et d'avoir des exportations à plus forte valeur ajoutée. Est-ce qu'elle est à ce point en position de force sur tous les minerais et matériaux dont on parle depuis tout à l'heure qu'elle réussirait aujourd'hui à les exporter autant qu'elle le voudrait sous la forme transformée ?
Alors c'est un très bon point de savoir un peu à quel point ce type de politique fonctionne ou non, d'autant qu'on a commencé avec le cas du nickel qui est le seul sur lequel on a un peu de recul, et l'Indonésie a un contrôle de plus de 50% de la production mondiale actuelle et à peu près la même quantité pour ce qui est des réserves. Donc il y a déjà une force sur ce métal-là qui fait qu'il est difficile de savoir si cette politique peut vraiment fonctionner de la même manière, parce qu'on l'a dit, il y a quand même eu un certain nombre d'effets bénéfiques pour l'économie indonésienne. Est-ce que ça peut fonctionner de la même manière pour la bauxite ou pour le cuivre, sachant que les entreprises étrangères qui seraient peu intéressées par investir dans des usines de transformation sur place ont d'autres alternatives pour ces métaux-là, même si on sait que, par exemple, sur le cuivre, la ressource est quand même sous tension, donc On ne peut pas forcément se passer de pays producteurs. Mais en tout cas, il y a un contrôle qui est évidemment moins fort. Et après, il y a aussi un point sur qui est considéré, c'est voilà, à quel point est-ce que on va avoir ce développement-là et on ne va pas se retrouver, par exemple, avec des quantités de minerais bruts dont on ne sait pas quoi faire parce que les smelters ne sont pas présents sur place.
Merci beaucoup Thibaut Michel, chercheur au Centre Énergie de l'IFRI, d'avoir été avec nous. Merci Jacob Nierenberg. Vous étiez depuis ici, Provence, et je remercie Juliette Delpero de vous avoir accueilli, maître de conférence en anthropologie à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes aussi membre de l'Institut de recherche asiatique. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Et c'est avec vous, Mélanie Kuzelevitch. Vous revenez sur l'arrestation de Rodrigo Duterte par la Cour pénale internationale.
L'ex-président philippin au style direct et au langage fleuri a atterri hier soir à La Haye, aux Pays-Bas. Arrêté par la CPI, il a été placé en détention, confirme Philippine News Agency. Rodrigo Duterte est accusé de crimes contre l'humanité lors de sa campagne contre le trafic de drogue aux Philippines. Officiellement, plus de 6000 trafiquants, mais aussi des consommateurs, sont morts lors de cette répression sanglante. La Cour pénale internationale estime qu'en réalité, le nombre de morts pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers, rappelle Infobae. Rodrigo Duterte pourrait être le premier chef d'État asiatique à être jugé par la Cour pénale internationale, note Interaction. Cette arrestation est un moment important, déclare de son côté le procureur de la CPI, Karim Khan.
The fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received.
C'est important pour les victimes et cette arrestation prouve que le droit international n'est pas aussi faible que certains pourraient le penser, estime Karim Khan. Peu de gens s'attendaient à ce que les choses évoluent si rapidement, commente le Guardian. C'est une chance pour la justice, titre le New York Times. Pendant des années, Duterte a donné une image d'invincibilité, se protégeant par sa bravade, ses alliances politiques et ses manœuvres judiciaires, analyse Antonio Contreras du Manila Times. Et aujourd'hui, il doit faire face aux conséquences juridiques de sa présidence controversée.
Mais selon certains médias, cette arrestation révèle à la fois les forces et les faiblesses de la justice internationale.
La crainte des représailles, les doutes quant à l'indépendance de la justice et la culture d'impunité profondément ancrée aux Philippines ont conduit les victimes à saisir la CPI plutôt que les tribunaux locaux, explique Manila Times, ce qui pourrait inciter d'autres occupants de postes à responsabilité à réfléchir à deux fois avant de commettre de telles atrocités, souligne Infobae. Mais d'un autre côté, l'affaire n'avance que parce que le vent politique a tourné aux Philippines, selon le média argentin, qui rappelle que l'alliance dynastique formée entre l'actuel président Ferdinand Marcos Jr. et son ancienne vice-présidente Sara Duterte, la fille de Rodrigo Duterte, s'est fracturée. C'était inévitable, les deux camps souhaitant que leur candidat soit élu en 2028, analyse Maria Ella Atienza de l'Université des Philippines dans le Guardian. Plus le ton est monté entre les deux parties, plus les déclarations de Marcos Jr. ont évolué jusqu'à la collaboration totale avec Interpol lors de l'émission du mandat d'arrêt contre Duterte il y a quelques jours. Mais cette affaire ne concerne pas seulement Duterte, insiste Manila Times. Elle touche à l'avenir de la démocratie philippine. Elle réaffirme qu'aucun dirigeant ne peut agir impunément et que la justice, aussi tardive soit-elle, doit être rendue. Mais le chemin est encore long, admet le quotidien philippin, et il sera certainement semé d'embûches.
Au Mexique, Mélanie, où nous étions hier dans Culture Monde, un nouveau charnier vient d'être découvert.
Dans le pays considéré comme l'un des plus dangereux pour les journalistes où des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans les massacres du crime organisé ou par les gangs liés à la drogue ces 20 dernières années, le collectif de recherche Amor por los Desaparecidos, Amour pour les disparus, a découvert un champ d'exécution dans l'état de Tamaulipas, près de la ville de Reynosa, rapporte El País America. Une boucle de ceinture gravée, un reste de gilet pare-balles, décrit El Sol de Tampico, mais aussi 14 monticules avec des restes d'eau humain carbonisé étalé sur 60 mètres carrés, ajoute El País America. Une macabre découverte quelques jours seulement après que d'autres restes humains ont été retrouvés à 1000 km au nord-ouest du Mexique, près de potentiels crématoriums clandestins du narcotrafic dans l'état du Jalisco, rappelle le quotidien sud-américain. Chaque semaine, les collectifs de recherche trouvent de nouveaux charniers, mais difficile de faire reconnaître ces sites par la justice. Dans un communiqué, le parquet de Tamaulipas a affirmé qu'il n'existe aucune preuve permettant d'établir l'existence de prétendus crématoriums ou centres d'extermination à Reynosa, note elle, Universal. À Jalisco, en revanche, les images des centaines de chaussures sans propriétaire ont choqué. Une enquête doit être ouverte pour comprendre comment les autorités de Jalisco ont pu ignorer l'existence du charnier après avoir fouillé la zone quelques mois plus tôt, rapportait le País. Même si ces découvertes n'ont pas surpris dans le pays, elles ont quand même permis de remettre au centre de l'actualité le travail de ces collectifs de recherche des disparus, souligne le quotidien sud-américain.
Merci beaucoup Mélanie Kuzelevitch. Dans un instant, les Midi de Culture.